Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon, puis bientôt ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois, a dit Pierre Dumayet, qui était un animateur de télévision en France et qui avait d'ailleurs écrit aussi, qui était un grand chroniqueur littéraire au Nouvel Obs, si je ne m'abuse. Alors voilà, lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois. C'est pour ça qu'on aime lire et c'est pour ça que j'adore animer cette émission Un livre découvert sur les ondes de Canal M. Je m'appelle Clotilde Seille et je vous souhaite la bienvenue à tous.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, je reçois presque, il n'est pas en studio, il sera au téléphone avec nous Michel Langlois, non-voyant, qui dévore littéralement les livres audio, qui vient nous parler d'une part de sa passion, mais aussi d'un ou deux livres à partager avec vous. Je reçois Chantal Lamar. Ah, ce n'est ni l'actrice, ni l'animatrice, ni la metteur en scène, ni la chroniqueuse, mais bien la lectrice que je reçois aujourd'hui. Bonjour Chantal.
Bonjour Clotilde.
Et puis je reçois aussi pour la, je ne sais plus, deux, troisième, quatrième fois peut-être. Mmh. Oui, ben, est-ce que vous
quatrième,
voulez.
Quatrième,
c'est
pense.
Un de nos chouchous, Luc Mercure, auteur à 16 heures, mais bénévole tout le temps, ici aussi chez Vues et Voix. On parlera d'un livre dont j'ai déjà parlé un peu à l'émission la semaine dernière, parce qu'il y a un livre qui s'appelle La Mesquita, qui vient de sortir au SQLA, et vous viendrez nous présenter un de vos coups de cœur que vous avez lu.
Oui, c'est Dans la grande nuit des temps de Antonio Muñoz Molina.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Et vous en mangez, Michel Langlois. Bonjour.
Oui, bonjour, Clotilde.
Ça me fait très plaisir de vous accueillir. C'est votre première participation, Michel.
Oui.
On a eu la chance ici, chez Vues et Voix, de faire votre connaissance à la plus récente journée de la culture. C'était vendredi dernier. Et vous êtes venu présenter à quelques bénévoles qui font de la lecture à voix haute. Pour vous, notamment, vous êtes venu leur parler de la joie que vous avez d'écouter ces livres-là. Et j'aimerais que vous nous partagiez un petit peu ça.
Oui, écoutez... Ça part de, disons, moi je suis handicapé visuel très sévèrement depuis que je suis jeune, depuis la naissance, et puis j'ai une cécité totale depuis 40 ans.
40 ans?
Oui. Et puis, ce que ça amène à un handicap, c'est que ça amène des limitations, puis des fois des frustrations.
Oui, bien sûr.
C'est qu'il y a des limitations, puis il y a des choses qu'on peut faire à moitié, il y a des choses qu'on peut pas faire du tout, puis il y a des choses qu'on peut faire pleinement.
Mm-hmm.
Donc, le livre audio, là, ça fait partie des choses que moi, je peux apprécier pleinement. Aujourd'hui, j'ai pas aucune limitation. Je sens pas que c'est quelque chose de la moitié, là, comme quand mm-hmm. je vais avoir un feu d'artifice, que j'ai juste le son, puis je vois pas les les belles explosions.
Ouais.
Et puis, en plus aussi, disons que... combiné à la qualité d'un bon livre, je pense que c'est un ajout qu'on peut se lire écouter des livres.
Oui.
Parce que la qualité de l'enregistrement et puis la qualité de la lecture faite par les bénévoles,
oui.
D'après moi, ça ajoute au livre.
Le fait que ce soit des voix humaines, et là tout le monde va me dire, ben là c'est une lapalissade. Non, parce qu'on sait que maintenant on a les voix de synthèse qui rentrent de plus en plus, et il
ouais,
y a des livres entiers. Non, c'est ça. Mais vous savez que je connais beaucoup de non-voyants qui finalement se sont habitués à ça aussi. Vous aussi ou pas du tout aux voix de synthèse?
Moi j'utilise des synthèses vocales, mais pour des fins fonctionnelles,
mm-hmm,
pas des fins de lecture récréative.
D'accord.
Je ne suis pas encore assez en amour avec le robot pour ça.
Michel Langlois, vous avez eu envie de nous présenter cette semaine un livre que, honnêtement, je ne connais pas. Vous l'avez découvert par le biais de la bibliothèque de l'INCA. Il s'agit de « Les fugitifs » de Shirley Conran. Je prononce ça
oui,
comment?
C-O-N. Alors. Oui, c'est, je connaissais ni l'auteur ni le titre, mais j'ai lu le livre après la description. Mm-hmm. Et puis, je l'ai lu deux fois.
Oh.
Puis je vais le relire une autre fois, c'est sûr.
Oh, alors qu'est-ce qui fait que vous allez relire une fois, deux fois, trois fois ce
livre?
Parce
que c'est un livre que quand tu lis le premier coup, là, tu le lis pour savoir l'histoire.
OK.
Et après ça, tu le relis pour apprécier les détails. Regarde, la trame, là, c'est cinq madames qui sont les épouses du président et des quatre vice-présidents d'une grosse compagnie minière de Pittsburgh qui exploite le gisement ou qui exploite une petite île quelque part en Polynésie où il y a des cannibales.
Oh boy, oui.
Et puis, la compagnie minière font le congrès annuel dans cette île-là. Puis il y a un leader local pas très gentil qui assassine les cinq maris. Pendant que les cinq madames sont parties à la pêche avec un guide. Quand les cinq épouses reviennent de la pêche, il n'y a plus de mari, l'hôtel est dévasté. Puis là, le guide de pêche, il va les cacher dans la forêt. La seule chose qui les sauve, c'est qu'ils sont dans la partie de la forêt où les esprits des cannibales voisins cohabitent. Fait que les cannibales, ils vont pas dans cette partie de la forêt-là.
OK.
C'est parce qu'ils ont peur des esprits, de leur mort.
Mais c'est une espèce de lost que vous... Hein, on est un peu dans cet esprit-là?
Lost
ou
et délivrance.
Entre Lost et délivrance, dit Chantal Lamar. Vous savez, le film délivrance, enfin, en tout cas, bref, qui était aussi une affaire comme ça. Bon, mais alors elles sont retenues prisonnières?
Elles sont pas retenues prisonnières, elles sont libres, mais elles sont prisonnières de la situation. Si elles
c'est
vont
ça,
dans
de l'environnement.
Plus dans le pays... Elles vont se faire dévorer par les cannibales. Puis de l'autre côté, c'est la mer. Mais ce qui est beau, là, ce qui est le fun dans le livre, c'est comment l'auteur il met en scène les... comment cinq madames pas mal gâtées
oui.
sont obligées par les circonstances d'aller chercher leur capacité puis dans le plus profond d'elles-mêmes, là, leur...
Ouais.
C'est tu vois, la lutte de la survie. Là.
Oui, 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 je pense qu'on voit revoler un peu les talons hauts.
Même quand tu dis qu'ils sont obligés de capturer des rats pour les mettre dans une cage puis pour leur faire goûter des fruits que la forêt dispense, mais qui sont le plus du temps empoisonnés, grave, empoisonnés.
Alors, c'est ça, oui, il faut trouver le moyen de survivre. Oh,
oui,
là,
oui.
Là. Oh là.
C'est pour ça que, comprenez-vous, quand je te dis, quand je l'ai lu la première fois, c'était pour apprendre l'histoire.
Mm-hmm.
Quand je l'ai lu la deuxième fois, c'était pour apprécier chaque moment, chaque détail. C'est ça que je trouve, moi, dans un livre qui te marque, c'est que quand ça transcende la trame, puis que mm-hmm. tu vas chercher les petits détails. Tu sais, comme je dis des
vous,
fois...
C'est
là,
ça, là, comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui vous a marqué à la seconde lecture, qui vous avait peut-être échappé en ne pensant qu'à l'histoire, à la première lecture?
Ben, premièrement, c'était un petit peu la complémentarité de chacune des madames qui ont trouvé de chercher leur qualité. Puis il y en a une, mm-hmm. des cinq, elle, tout ce qu'elle pouvait faire dans la vie, elle, c'était séduire. Mais tu sais, là, on ne peut pas séduire les cannibales, tu sais.
Et ben, les autres? Oui, pardon.
Elle va être utile à quelque chose, elle aussi.
Mm-hmm.
Tu comprends dire? Parce que je veux pas vendre des punchs, là.
Non. Mais enfin, j'imagine que les cinq personnes ont cinq personnalités très, très marquées et très différentes.
Oui. Très complémentaires, finalement, qu'ils sont en train de découvrir. Surtout qu'à un moment donné, suite à un accident bête, leur guide de pêche qui les a aidés au début, ils vont mourir.
Non.
Fait que, oui.
Non, 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 non. C'est fou parce que vous m'en parlez. Puis évidemment, la seule question maintenant que j'ai envie de vous poser, mais il ne faut vraiment pas m'y répondre, c'est « Ça finit-tu bien? » Non, mais tu sais...
Pardon?
C'est dire « Est-ce que ça finit bien? » Mais vous n'êtes pas obligé de me répondre.
Je ne peux pas vous répondre.
Ah, c'est bien. Mais bravo,
non.
Michel.
C'est comme le Capitaine Bonhomme, ça, la suite. faut lire le livre.
Il faut lire le livre. Michel Langlois, c'est un plaisir. Je pense que vous allez devenir un habitué de cette émission-là. Si l'aventure vous tente, c'est beaucoup moins dangereux que l'aventure de ces madames-là.
Ah, ça fait toujours plaisir de partager...
Un bon livre.
Un bon livre, des bons moments, absolument. Parce que, comme je t'ai dit au début de l'émission, moi, je trouve que c'est tellement... C'est tellement important ce que les organismes font pour nous autres qu'il faut retourner l'ascenseur quand on peut. Hein.
Ben écoutez, c'est très, très touchant ce que vous nous dites, Michel, parce que, voyez-vous, à table, il y a mon ami Luc Mercure et moi-même qui sommes aussi bénévoles ici. Chantal va le devenir très, très prochainement. Et ben, vous savez, ça nous donne la petite tape dans le dos aussi qui est très, très, très appréciée. Et personnellement, je suis très, très touchée, Michel, par votre témoignage.
Ah, ça fait plaisir. Il faudrait que je surveille un livre que vous avez lu.
Comment vous... j'en ai lu au moins une quarantaine maintenant là, depuis quelques temps que je suis là, alors vous allez bien finir par tomber sur un bouquin.
je vais m'informer de ça.
D'accord, Michel. Je vous embrasse. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre du livre dont vous nous avez parlé, Les Fugitives de Shirley Conran. Ça s'écrit C-O-N-R-A-N. Et c'est à l'INCA. Oui. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir.
Merci à vos invités.
Au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et l'invité spécial aujourd'hui, c'est donc Chantal Lamar. Je suis tellement contente, Chantal, parce que lorsque j'ai commencé à animer cette émission-là, il y a un peu plus d'un an, je m'étais fait une liste. Une wish list. Alors, il y avait ceux que je connais, ceux que je connais un peu, ceux que je connais pas du tout. Alors, évidemment, vous étiez dans la troisième, parce que, bon, je vous connais comme tout le monde, en tant qu'animatrice, chroniqueuse, actrice, tout ça, mais je vous connaissais pas personnellement. Puis un jour, j'ai pris mon téléphone, et très gentiment, vous m'avez rappelé, mais alors, ça n'a pas pris boudinette, comme on dit en France.
Oh! Non, ben, ça prend pas boudinette pour venir parler de livres, de quelque chose qui nous intéresse, puis qui nous interpelle, sur lequel on sent, bon, où nous allons converser et puis...
Oui, parce que vous aimez lire beaucoup.
Ah, j'aime beaucoup lire, oui. Mm-hmm. Oui, ça fait partie de ma vie. Il faut que sur la table de chevet, ce soit varié. J'ai une drôle de façon, une drôle de méthode de lire aussi. Je veux aller entre la BD, le Paris Match du vendredi, et puis quelque chose de plus consistant. Je me dis toujours... Il y a certains livres qui me demandent un effort. Je l'admets. Il faut vraiment que je sois dans une disponibilité exceptionnelle parce que je remonte parfois pour recommencer. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et puis, une grande préoccupation, c'est d'essayer de transmettre le goût de la lecture à ses enfants.
Oui.
Oui. J'ai fait ça quand j'étais jeune, pendant 2 ans, de travailler pour une maison d'édition et de seulement sillonner la province avec une poche de hockey, de livres, un petit décor, une marionnette, pour donner envie aux enfants d'aller chercher des livres à la bibliothèque. Et c'est le moment de ma vie où je me suis sentie le plus utile, où je ne remettais jamais rien en question, où je ne m'ennuyais pas, où je rencontrais toutes sortes de publics et que je voyais des bibliothèques bien dégarnies. Et ça, on remonte dans les années 80. Et puis, je n'ai pas l'impression que ça a vraiment beaucoup bougé.
Non, c'est ça. Et puis là, j'en reviens toujours. Je pense que c'était Alexandre Jardin qui avait dit un jour que ça prenait comme ça des mesures personnelles pour faire avancer parfois des causes lorsqu'on s'aperçoit que sur le plan politique et gouvernemental, il ne se passe rien et que même, on peut le dire en ce moment, on régresse. Et je pense que finalement, en ce moment, ça nous prendrait quelques centaines d'autres Chantal Lamar qui débarquent comme ça avec des sacs. Je veux dire, ce serait peut-être un truc à créer. Il va falloir que j'y pense. Oh là
bon,
là.
Pensons-y.
On va se rappeler.
Oui.
Chantal, lorsque je vous ai demandé, lors de notre premier entretien téléphonique, alors, de quel livre allez-vous parler? Vous n'avez pas hésité beaucoup, hein?
Non, parce que j'ai cherché un livre qui faisait partie de votre bibliothèque, qui était accessible au lecteur du SQLA. Et c'est un roman que j'ai lu il y a peut-être un an et demi, Le roman du mariage de Jeffrey Eugenides. J'ai acheté ce livre-là en voyant que c'était l'auteur de Middlesex, que je n'avais pas lu, mais que j'avais entendu tellement de choses comme un roman percutant, quelque chose de fort, quelque chose qui a habité longuement les lecteurs en me disant « je vais le lire, mais je ne suis pas tombée dessus ». Mais après avoir lu le roman du mariage, je me suis rendu compte que c'était le même auteur que The Virgin Suicide. Je ne sais pas si, M. Mercure, vous connaissez la traduction française ou si vous avez lu ce roman ou vu le film. Bon, Jeffrey Genides a écrit 3 romans. C'est un auteur dans la jeune cinquantaine. On ne peut pas dire qu'il est hyper productif, mais quand même, tout ce qu'il a écrit marque et il y a vraiment toujours une façon de se distancier de ce qu'il avait fait avant. Alors, on ne retombe pas en terrain inconnu. C'est un maître pour un vrai roman psychologique.
Je voudrais, avant toute chose, parce que je sais qu'on va nous le demander et c'est normal, Eugenides, je voudrais l'épeler parce que les gens prennent des notes. Oui.
E-U-G-E-N-I-D-E-S.
Voilà, c'est ça. Donc, Jeffrey. Et c'était Sofia Coppola qui avait porté à l'écran...
The Virgin Suicide.
Voilà, exactement. Alors... On est dans l'univers quoi de
On est dans l'univers de Jane Austen, roman-là. Oui, un peu de Jane Austen. Mm-hmm. C'est une jeune étudiante en littérature aux États-Unis. Déjà, c'est assez rare. Les campus américains regorgent de cette espèce d'élite surscolarisée qui deviendront les grands gagnants de ce monde. Mais tu sais, ça intéressait vraiment un département de littérature où tout le monde était un peu marginal parce que aimer le livre et puis essayer d'en faire sa vie, c'est déjà quelque chose. Alors, ça se passe, je pense, c'est Providence, une petite ville pas loin de la mer aux États-Unis. Et la jeune Madeleine, elle, veut vraiment consacrer ses études littéraires à Jane Austen et elle a son club de lecture de femmes où on étudie Jane Austen et évidemment, ce sont des jeunes femmes qui sont vraiment interpellées par tout le côté romantique sur la façon de faire la cour, sur socialement l'aboutissement que peut donner tel ou tel mariage parce que c'est ce qui va donner ta valeur. Et puis, c'est étonnant parce qu'on est au début des années 80. Bon, une petite vague féministe peut-être qui s'essouffle, mais quand même, pour ces jeunes femmes-là, le mariage, c'est pas le but, c'est pas la quête ultime. Mais cette fille-là, ben, on voit qu'elle est super brillante, elle a vécu entourée de livres, mais c'est pas ce à quoi on s'attendrait non plus. Elle est pas moche du tout, elle est très belle, puis on parle des personnages autour d'elle qui étudient. Il y a un garçon qui est amoureux d'elle, qui a l'air bien sous tout rapport, mais juste un peu beige, si je peux me permettre, qui s'appelle Mitchell. Et elle est complètement amoureuse et a tout jeté sur son dévolu sur un autre garçon. Elle, là, son nom m'échappe.
Attendez, je vais l'avoir ici. Léonard.
Léonard. Voilà. Léonard, qui est le beau ténébreux, qui est vraiment, c'est vrai, le prototype du gars quand t'es une... T'as 20 ans, c'est ce que tu veux. Tu veux ce mystère-là, ce garçon-là est comme, dès le départ, un très drôle de comportement, c'est-à-dire qu'il l'aime et qu'ensuite il la laisse choir et puis elle est toujours en train de se relever du dernier écueil de ce qu'il a fait subir. Mais pour se rendre compte que finalement, oui, il l'aime, oui, ils vont se retrouver ensemble, mais il y a un grave problème, il est bipolaire.
Ah, c'est ça.
Il est maniaco-dépressif. Elle va le marier, elle va le suivre et puis...
Elle va s'en mordre les doigts,
Elle va s'en mordre les doigts, évidemment. Et on va toujours suivre la trajectoire du premier, de Mitchell, qui, lui, est tellement éperdument amoureux. C'est de voir que les sentiments dans les romans de Jane Austen sont les mêmes, avec des jeunes qui ont toujours l'air désintéressés de la chose, et puis qui ne tiennent pas absolument à se marier, puis qu'ils ont la vie pour vivre librement, puis essayer, puis d'y aller à tâtons, puis d'avoir toutes sortes de relations. Et je sais pas, c'est une écriture... Ça te parle d'emblée, puis c'est très digeste de parler de littérature, et puis ça va de soi, et tu suis le parcours de cette fille-là. C'est dans les années 80, mais ça aurait pu être avant, ça aurait pu être les années 90. Je pense que toutes les filles ont une Madeleine en elles, et puis je veux pas vous dire comment ça se termine, mais c'est difficile aussi de parler de la maladie mentale.
Oui, parce qu'il en est beaucoup question.
D'une façon aussi concrète, là.
Oui, parce que là, on parle des traitements sont infligés à ce... Et qui sont épouvantables, avec le lithium,
Avec le lithium, mais c'est seulement par le lithium qu'il réussit à avoir un semblant de normalité, mais on veut pas vivre... C'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui est médicamenté à ce point-là. On l'a perdu d'une certaine façon.
Et tantôt, je parlais de Jane Austen parce que finalement, on s'aperçoit que l'univers décrit dans les livres de Jane Austen et celui-là, on est aussi dans le triangle amoureux.
Absolument.
On est dans l'importance du mariage.
Oui.
Sans mariage, ou en tout cas sans l'amour, sans le regard de l'autre, on n'existe pas.
Oui.
Et puis, où les hommes sont justement des... Comment ? Ils ne sont pas fantasques, mais parce que c'est faux, mais ils ont des personnalités auxquelles les filles s'accrochent. Je dirais, elles sont complètement aveuglées, c'est ça que je veux dire, souvent.
Oui.
Parce qu'elle est complètement aveuglée.
Oui.
Et puis l'autre, il tombe en amour, le Mitchell, il va finir chez Mère Teresa, je pense, finalement.
Ben oui,
il s'en
lui,
va, entre
oui, il va se lancer dans les bonnes causes, l'humanitaire, la théologie, toutes sortes de choses. Mais il revient quand même sporadiquement, et puis... C'est une belle histoire.
On me dit ici, c'était une critique de Télérama, un roman psychologique dans le plus pur sens du terme, qui s'assume comme tel et revendique son inscription dans la longue tradition du roman réaliste anglo-saxon. Justement, on vient exactement d'en parler. Il y avait d'autres critiques que je suis allée chercher ici. Le roman du mariage est long à démarrer. Vous avez trouvé ça, vous?
Non.
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 Mais révèle progressivement une profondeur, une émotion et une composition qui impose la classe de M. Eugénidis. Je m'excuse, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom. Qu'est-ce que j'avais ici? J'en avais repéré une qui me semblait pas mal, dont j'avais envie de vous parler. Ah oui, on dit ici qu'il pêche parfois un peu du côté de ceux qu'il entend caricaturer ou dénoncer. Pourtant, nombreuses sont les scènes qui ne manquent ni de drôlerie ni de piquant.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il dénonce?
Je ne sais pas à quoi on fait référence.
On ne fait pas un, c'est ça. Non. Moi non plus, je non. me suis dit, tiens, je vais poser la question.
Dans Virgin Suicide, en fait, ce qu'il décrit, c'est l'espèce de bien-pensanterie, le mode de vie américaine très convenu, parce que c'est des parents de 7 jeunes filles qui ne peuvent pas vivre comme les autres. Mm-hmm. On est dans les années 70, mais ces filles-là ne peuvent pas ni porter de jupe courte, ni sortir, ni d'avoir de garçons dans leur vie. Et pour ceux qui n'ont pas lu ce livre-là, je dévoilerai pas la fin parce que c'est trop troublant. Blanc, mais peut-être que c'est de ça qu'il nous parle.
Est-ce qu'on pourrait peut-être, Jean-Sébastien, je ne sais pas si, parce que malheureusement je n'ai pas fait la recherche et je ne suis pas une bonne fille, est-ce qu'on pourrait vérifier si ce serait traduit par quoi, le suicide des vierges ou ce serait Virgin...
Je n'ai aucune idée. Je l'ai lu en anglais et j'ai vu le film, la version américaine.
Si tu vas dans catalogue SQLA, voyez-vous, on fait ça comme ça, on est en famille. Et ce serait peut-être de faire Eugénidus dans auteur. Et alors, comme Eugène, mais ça se finit par IDUS. Et comme ça, voir s'il y en a d'autres, parce que ce serait intéressant de savoir si ces livres-là sont aussi disponibles au SQLA, ce que je souhaite. En attendant...
Et si vous aimez le roman du mariage, retournez à Virgin Suicide.
C'est ça, c'est ce que je me dis. Hein. Vous avez un petit extrait?
Oui, oui. Mettre en contexte un peu, je crois que ça fait partie un peu... de, je ne sais pas, la thèse qui est en train d'ébaucher pour ses travaux à propos de Jane Austen. Alors, je crois que c'est Madeleine qui parlait. Elle dit, selon Sanders, le roman avait connu son apogée avec le roman matrimonial et ne s'était jamais remis de sa disparition. À l'époque où la réussite sociale reposait sur le mariage et où le mariage reposait sur l'argent, les romanciers tenaient un vrai sujet d'écriture. Les grandes épopées étaient consacrées à la guerre, le roman au mariage. L'égalité des sexes, une bonne chose pour les femmes, s'était révélée désastreuse pour le roman. Et le divorce lui avait donné le coup de grâce. De l'avis de Sanders, le mariage ne signifiait plus grand-chose et il en allait de même pour le roman. Qui utilisait encore le mariage comme ressort dramatique? Personne. On n'en trouvait plus la trace que dans les fictions historiques. Alors, je pense que c'est peut-être une prémisse, quelque chose qui a vraiment, vraiment inspiré l'auteur.
Nous avons une réponse ici.
Oui. Alors, Virgin Suicide, le livre en version française, porte le même titre, présentement non disponible au SQLA. Au Québec, il y a eu une adaptation cinématographique. Le titre québécois est Cri ultime.
Ah, d'accord.
Mais pour l'instant, c'est...
Ouais. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Cela dit, allez vérifier aussi, peut-être de votre côté, vous qui nous écoutez, du côté de la bibliothèque de l'INCA, parce que parfois, ça n'est pas disponible au SQLA, mais ça l'est à la bibliothèque de l'INCA. Alors, au moins, ça nous donne les informations. transformation. Jean-Sébastien Laliberté, vous le savez à quel point, sans lui, mais que serais-je sans toi, qui vint sous mes fenêtres. Donc, Jean-Sébastien qui m'aide pour toutes les émissions ici. Chantal Lamar, je vous remercie tellement. Je suis contente parce que vraiment, je ne suis pas déçue. Je suis convaincue que nos auteurs ont aussi apprécié votre présence dans nos studios. Et à un moment donné, ils vont peut-être reconnaître votre voix alors que vous allez vous aussi...
Je viendrai lire Virgin Suicide.
Ah, ça, ce serait une bonne idée. Voilà une bonne suggestion à faire. Chantal Lamar, on vous retrouve bientôt, je l'espère. Je vais vous souhaiter une bonne continuation dans toutes vos émissions. Je pense que vous prenez un plaisir fou avec cette émission, entre autres sur l'histoire, que moi, je ne manque pas de suivre sur TV5. Alors, eh bien, bravo. Belle saison à vous. Et puis, on vous retrouve. Et puis, bonne lecture, surtout.
Merci, Clotilde.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
J'ai pris l'habitude, depuis que l'émission est passée en format d'une heure, de revenir, peut-être de remettre en mémoire un classique. Et cette semaine, j'ai pensé à La Vallée des Avalées, la première œuvre publiée de Régent du Charme par Gallimard et prix Goncourt en 1966, quand même, faut-il le rappeler. Est-ce que vous l'avez lu, l'un ou l'autre, Luc Mercure, La Vallée des Avalées?
Oui, j'ai lu ça quand j'étais adolescent.
Adolescent?
Oui, ça a été une œuvre marquante.
Ah oui, hein? Chantal?
Ah, moi aussi, oui, j'ai joué Inespéré Inattendu aussi.
Ah oui.
Oui, l'univers de Ducharme, c'est comme... Oui.
Et voyez-vous, je lisais à un moment donné, en faisant des recherches là-dessus, sur une femme qui disait « En rangeant mes étagères, je tombe sur La Vallée des Avalées de Régent Ducharme. C'est un livre sur lequel je tombe souvent en rangeant les dés, parce que c'est un livre qui malheureusement ne sort quasiment pas. Quel dommage. Je tiens, et je ne suis pas la seule, Régent Ducharme pour un très grand auteur, et je trouve son roman, un roman d'enfance, absolument époustouflant. Elle dit aussi l'écriture de Ducharme, vous me direz ce que vous en pensez, poésie brute, vivante, pleine de formidables images, par exemple cette citation « On aimerait avoir aussi soif qu'il y a d'eau dans le fleuve, mais on boit un verre d'eau et on n'a plus soif. »
Oui, il y a un sentiment d'urgence chez Ducharme et il y a une combinaison de scènes très violentes, très dures, mais d'une immense poésie aussi. Et je pense que c'est un des éléments qui fait la force de Ducharme, là, ce mélange, cette intensité-là, à la fois dans le poétique et dans le drame humain.
Oui, parce qu'en plus, cette femme-là, qui est Bérénice, hein, c'est ça, qui, elle, aime son frère, hein, Christian, qui rêve d'être lanceur de javelot, hein, quand il est petit, quand il est jeune. Elle l'aime d'amour et les parents vont tout faire, hein, pour séparer ça, en gros. Hein, vous qui l'avez lu, parce que moi, il faut que je me remette dedans aussi.
Oui,
c'est un des premiers que j'ai lu aussi en France, avant que j'arrive au Québec. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et honnêtement, moi, il a fallu que je me remette aussi dedans pour cette émission-là. Et c'est fou parce que j'ai aussi choisi ça parce que vous allez le voir dans la deuxième partie de l'émission. On parle encore là beaucoup d'amour, beaucoup de triangles amoureux aussi, avec notamment le livre de Chalandon dont je veux parler. Et La Vallée des Avalées, ben c'est ça, cette histoire d'amour qui commence ici, hein, sur l'île des Sœurs, et qui finit finalement en Israël, parce que elle est élevée dans l'éducation juive. Lui, Christian, il est élevé dans l'éducation catholique, et donc à un moment donné, c'est ça, les parents vont les séparer. J'avais envie de vous lire un court extrait de La Vallée des Avalées, ne serait-ce que pour vous redonner peut-être... est-ce que j'ai une minute pour aller jusqu'à 28? Oh mon Dieu, ça va être court, mes amis. Tu me fais signe, hein? D'accord. Tout m'avale. Quand j'ai les yeux... Oh, regarde, on va se passer de la petite musique et puis tu vas me faire signe. Je vais te suivre au doigt et à l'œil. Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalée. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est par ce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage de ma mère est beau pour rien. S'il était laid, il serait laid pour rien. Les visages, beaux ou laids, ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon, une fleur, et ça nous travaille. Puis, ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça nous désespère.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités. Chapitre 4. le bénévole du jour.
Oh, allez, hein. Ça dure 4 minutes, mais vous savez, 4 minutes dans une émission de 28, ça en prend beaucoup. Luc Mercure, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Vous savez pourquoi j'ai mis ça,
oui,
évidemment.
Bien sûr.
Parce que la semaine dernière, j'ai annoncé La Mesquita, qui est votre troisième livre, celui que vous aviez écrit. Et que
en
vous
fait,
avez...
c'est le sixième
c'est
que
le
j'ai
sixième.
Écrit. C'est le troisième qui est disponible au SQLA.
Au SQLA. Et c'est vous qui l'avez lu, bien évidemment.
Oui, c'est le deuxième que je lisais.
Et j'avais mis cette chanson-là parce qu'il en est question, à un moment donné, au tout début du livre, des deux protagonistes dit « Attends, t'es pas pour me chanter Toréador en garde ».
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est comme ça que j'avais envie de vous jeter le tapis rouge afin que vous le fouliez une nouvelle fois avec nous. Comment ça va, Luc?
Ça va très bien, merci.
Content que La Mesquita soit enfin disponible?
Oui, oui, tout à fait. Quand on écrit, c'est parce qu'on veut procurer du plaisir, des émotions. Donc, si ça peut être disponible à des gens qui ne peuvent pas lire une version papier ou électronique, ben tant mieux.
Je parlais de triangle amoureux. Oui. Là, il est question d'un triangle aussi là-dedans.
Oui, il y a un triangle parce qu'il y a trois personnages, mais c'est pas vraiment
un triangle amoureux.
C'est-à-dire que c'est plus un roman choral où trois destins, les destins de trois personnes qui n'ont apparemment pas de lien en commun au départ vont s'entrecroiser. Alors, c'est deux femmes, un homme, deux Québécois, une Espagnole. Alors, on commence dans le premier chapitre avec une femme qui part de chez elle, qui s'appelle Maria, et qui s'en va en Espagne. Elle, elle est québécoise. Enfin, elle habite au Québec. Elle a définitivement des problèmes avec l'affirmation de son identité. Le nom Maria, d'ailleurs, est assez international, assez ambigu. Et elle part, elle quitte sa maison, elle verrouille la porte de sa maison, elle jette les clés de sa maison dans un puisard et elle s'en va. Elle s'en va à l'aéroport, elle prend un avion pour Malaga.
Et elle veut l'Espagne, elle se sent espagnole?
Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on sent que c'est peut-être un peu un hasard si elle s'en va vers l'Espagne. Même si elle s'appelle Maria. D'autre part, il y a une Espagnole, Carmen, qui s'appelle Carmen, comme la Carmen, évidemment.
Oui. Carmen Cita, oui.
C'est ça. Mm-hmm.
De M. Bizet.
Voilà. Et qui, elle, est catalane et qui quitte sa maison aussi, mais elle s'en va enseigner la poterie parce qu'elle est, elle est artiste. Elle s'en va enseigner la poterie à Grenade comment faire des ça sur les rosses. Mm-hmm. Et on comprend que c'est une femme qui a été blessée très profondément. Elle s'habille un peu comme Nina Hagen, qui est devenue son idole. Mais on comprend que c'est une carapace un peu. Et deuxième personnage. Et le troisième, c'est Yvan Desranleaux. C'est un Québécois qui est né dans les années 50. Et qui va, qui se sent rejeté un peu, qui a une très grande estime de lui-même par contre, on suit un peu son évolution dans sa famille, un père qui a tendance toujours à le rabaisser, une mère qui à la fois l'adule et aussi le stimule, mais aussi est extrêmement violente avec lui. Et il va devenir chanteur, il va devenir haut-de-contre parce qu'à l'adolescence, sa voix ne mue pas et il a toujours été élevé dans un univers musical et il va s'épanouir là-dedans, sans faire une carrière vraiment à la hauteur de ce qu'il avait envisagé.
Voilà les trois personnages de La Mesquita.
Qui vont évoluer différemment, séparément dans la première partie. Mmh. Et dans la deuxième partie du roman, les destins vont s'entrecroiser. On comprend que puisque Maria s'en va en Espagne, elle va risquer de croiser Carmen. Mmh. Et on va comprendre que Maria et Yvan se sont connus avant que Maria s'en aille en Espagne. Et donc, à la fin, on va avoir une rencontre un peu symbolique pour fermer le troisième côté du triangle, entre Carmen et Yvan, qui seront les deux personnages qui n'avaient pas de lien du tout dans les deux premières parties. Voilà, donc c'est pas vraiment un triangle amoureux.
Non,
mais c'est un triangle, tout à fait. Voilà.
La Mesquita, donc, par Luc Mercure, ça vient de sortir en version audio au SQLA. Et en plus, vous nous avez apporté un livre dont vous nous aviez envie de nous parler, un autre livre que vous avez lu, mais que vous n'avez pas écrit, celui-là.
Non, et on signalait tantôt que certains usagers du SQLA sont contents d'avoir des lecteurs qui leur permettent d'avoir des livres disponibles. Mm-hmm. Ben, C'est un plaisir, en tout cas, la plupart du temps, aussi de lire, d'abord parce que j'aime lire, mais aussi parce qu'on découvre nous-mêmes des auteurs qu'on ne connaissait pas. Et c'est le cas avec le livre dont je vous parle. C'est un auteur, pourtant, qui est assez connu en Espagne, qui s'appelle Antonio Muñoz Molina. Il a gagné, entre autres, le Féminin étranger pour un de ses romans, Pleine lune, au début des années 90. Okay. Il a gagné, l'an dernier, je pense, le Prince des Asturies, qui est un des prix les plus prestigieux en Espagne. L'équivalent un peu, du gouverneur général ici, et que je ne connaissais pas, à ma grande honte, et j'ai découvert vraiment un monument. C'est donc son roman, son avant-dernier roman, Dans la grande nuit des temps, que j'ai lu. C'est une brique de 750 pages, 750 pages bien pleines, bien remplies, donc c'est vraiment du bonheur assuré pendant longtemps.
Ça représente combien d'heures de lecture à peu près?
Je
ne
sais pas, je
ne
les compte
pas,
mais ça a été, c'est long. C'est très, très long, d'autant plus que c'est, vous allez le voir, ça comporte certaines difficultés de lecture parce que c'est assez proustien comme écriture. Il y a des phrases peut-être pas aussi longues que celles de Proust, mais qui débordent souvent la demi-page. Bon, voilà. Alors, dans la grande nuit des temps, alors, au début du roman, on est à Penn Station en 1936 et un homme qui semble avoir un certain standing, mais qui manifestement est épuisé par le voyage qu'il a fait, arrive à Penn Station et monte les marches de cette gare-là. On comprend vite donc que c'est un Espagnol, un homme dans la fin de la quarantaine, et il a fui l'Espagne. On est en 1936, c'est donc le début de la guerre civile espagnole. On ne sait pas encore directement si c'est pour fuir la guerre qu'il est là. Et peu à peu, on va comprendre qu'il est venu à New York dans l'espoir, entre autres, de retrouver une femme qu'il a connue, une Américaine, qu'il a connue en Espagne, qui s'appelle Judith Bielli, et qui maintenant travaille, enseigne à 2 heures, dans une petite ville, à 2 heures au nord de New York, le long de l'Hudson. Et donc, au début du roman, donc, Ignacio Abel, qui est un architecte, arrive à Penn Station. Et à peu près 600 pages plus loin, sur les 750, il arrive dans la ville où habite Judith Bielli, à 2 heures de train. On comprend qu'évidemment, pendant ces 600 pages-là, il ne fait pas que raconter, décrire le paysage, même si les rues de l'automne, c'est très beau.
Mais déjà, de toute façon, bon, il se marie, il a 2 enfants.
Oui, c'est ça. Alors, on va découvrir d'abord sa passion pour Judith. Lui, qui est un homme qui a toujours eu une existence assez rangée. C'est un homme marié. Lui, il vient d'une famille assez modeste. Son père était maçon et lui, il est devenu architecte. Donc, il s'est hissé
dans
la hiérarchie sociale. Et il a aussi épousé une femme de bonne famille, Adela, avec laquelle il a eu 2 enfants, avec laquelle la relation n'est pas très, très satisfaisante. On comprend que c'est 2 univers qui sont confrontés. Et ça évoque déjà un peu les tensions qui se déroulent en Espagne aussi entre les franquistes et les républicains. Donc, on va découvrir sa vie, sa passion aussi. Et petit à petit, donc, à force d'aller-retour entre le présent et le passé, on va découvrir cette histoire-là. Et c'est une des grandes habiletés du romancier, c'est de nous amener constamment du passé au présent. Et il ne nous dévoile jamais tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il nous donne certains éléments d'informations qui nous permettent un peu de comprendre le personnage, mais il va revenir 100 pages plus loin pour développer
Est-ce qu'on a envie d'aller 100 pages plus loin pour savoir? Parce que ça arrive dans les bouquins.
Non,
tu sais,
parce
c'est
que
très frustrant.
On est trop pris par le style et l'intérêt de la lecture vient beaucoup de l'appréciation de l'écriture. Je peux vous en lire un petit bout.
On aimerait ça, oui, absolument.
Je change mes lunettes parce que pour lire,
allez-y,
ça
Luc.
Me prend un peu d'installation. Alors, voilà. Alors, il va décrire justement, il va parler des ravages de la guerre. Ça me prend un petit peu de lumière. Pardon. Ah. C'est beau. Alors, il va parler des ravages de la guerre. Parce que ça se passe donc au moment où Madrid va être prise. Alors, il va dire, il y avait une chose que son métier lui avait apprise. Il faut longtemps pour qu'un bâtiment finisse par être achevé, parce que les choses grandissent avec une lenteur organique, quels que soient les efforts qu'on y consacre, mais l'instantanéité de la destruction est éblouissante. Le jet d'essence et la flamme qui monte et dévore tout, le coup de feu qui abat un homme fort comme un arbre. Il lui disait que ce qui l'étonnait le plus était de s'être tellement trompé sur lui-même, se croyant un rationaliste, un pragmatique, assistant avec ironie aux délires idéologiques de ceux qui prédisaient avec le plus grand sérieux l'imminence de la dictature du prolétariat ou du communisme libertaire, de ceux qui étaient convaincus qu'en abolissant l'argent et en pratiquant le nudisme ou l'espéranto ou l'amour libre, on instaurerait le paradis sur terre, des idolâtres de Staline ou de Mussolini, de ceux qui criaient le poing fermé ou la main ouverte. En se croyant lui-même sceptique,
Il avait été plus rêveur que n'importe lequel d'entre eux. En s'imaginant qu'il ne s'occupait que de ce qui pouvait être calculé et mesuré, de ce qui produisait un bienfait modeste, mais indiscutable, un progrès. Et donc, dans ce... C'est vraiment... Et là, c'est une phrase courte là, que je viens de dire. C'est vraiment ce qui est absolument éblouissant, c'est qu'il nous amène en cours d'un même paragraphe. Il commence, par exemple, son paragraphe en nous parlant de sa relation avec Adela. Et là, peu à peu... Le sujet va dévier, un peu comme ce qui se passe quand on est dans notre tête et que c'est notre inconscient qu'on erre, mais là, il le fait par écrit. Et à la fin du paragraphe, il va tout d'un coup, on se retrouve dans un commentaire sur la guerre, par exemple, et là, il va enchaîner dans un paragraphe qui suit et il va nous revenir ensuite dans le présent, dans le passé. C'est un flot, on se fait bercer, on se fait emporter. C'est un roman aussi qui nous parle de drames humain, bien sûr, parce que cet homme-là est déchiré. Il a deux enfants, il a une femme qu'il quitte et il découvre la passion pour la première fois. Mais aussi, c'est un roman qui évoque la guerre, les atrocités de la guerre. On en évoque ici un aspect. Et évidemment, les pertes matérielles ne sont pas les pires. Et donc, lui, il va être déchiré. On comprend que qu'il a quitté finalement l'Espagne, c'est oui pour retrouver la femme qu'il aimait passionnément. Mais c'est aussi parce qu'il a été forcé, il a été séparé pendant la guerre de sa femme et de ses enfants. Et au moment où les franquistes donc, ont envahi Madrid, il se retrouvait, lui et les autres membres de sa famille, de part et d'autre d'une frontière qui était à peu près infranchissable à ce moment-là. C'est donc assez proustien, comme à la fois dans la langue, qui est très, très longue, très sinueuse, et aussi dans l'analyse psychologique, parce qu'il y a à la fois beaucoup d'action. Mais dans le présent des événements qui est raconté, c'est presque rien. C'est le voyage en train pendant les trois quarts du roman. Et ensuite, donc, dans la dernière partie, il va avoir cette fameuse rencontre-là entre ces retrouvailles entre Judith Biélé et Ignacio Abel.
On va rappeler le titre du livre et son auteur, Luc Mercure, « Dans la grande nuit des temps » de Antonio Muñoz, M.U. N-O-Z, bon, avec un petit tilde là au milieu, mais peu importe, M-U-N-O-Z, Molina, comme ça se prononce, M-O-L-I-N-A. Merci beaucoup, Luc Mercure. On
ça
se retrouve bientôt.
J'espère.
Votre quatrième va se lire, enfin, du moins celui disponible va se lire bientôt, peut-être.
Je ne sais pas. J'ai un livre qui vient de sortir, mais c'est pas sûr encore qu'il va être lu.
Moi, je suis convaincue.
On verra.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
C'est l'heure de la chronique que j'appelle de bouche à oreille, la page de littérature que je pourrais aussi appeler teaser pour l'émission de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons recevoir entre autres Michel Lecomte, qui est bénévole aussi ici, qui est moniteur, avec qui je travaille assez régulièrement pour enregistrer des livres. Et Michel Lecomte est un passionné de Sorge Chalandon. Sorge Chalandon qui a entre autres écrit ce livre que j'ai entre les mains qui s'appelle « Le quatrième mur », qui a reçu cette année le prix des libraires du Québec 2014 dans la catégorie « Roman hors Québec ». Je vais vous lire ce qu'on nous dit en quatrième de couverture. Ça va vous donner une très, très bonne idée de ce qu'est ce livre avant que Michel vienne nous en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. L'idée de Samuel était belle et folle, monter l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler 2 heures à la guerre en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ses ennemis sur une scène de fortune entre cours détruites et jardins saccagés. Samuel était grec, juif aussi, mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait promettre à moi, le petit théâtreux de patronage, et je lui ai dit oui. Je suis allé à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix, avant que la guerre ne m'offre brutalement la sienne. Michel Lecomte vous en parlera beaucoup plus volontiers. Moi, je vous en parlerai volontiers aussi parce que j'ai adoré ce bouquin, mais Michel, il ne se peut plus à l'idée de venir. Je voudrais, si vous me le permettez, vous en lire le début, le tout début de ce livre, « Le quatrième mur » de Sorge Chalandon. Tripoli, nord du Liban. Jeudi 27 octobre 1983. Je suis tombé, je me suis relevé. Je suis entré dans le garage, titubant entre les gravats. Les flammes, la fumée, la poussière, je recrachais le plâtre qui me brûlait la gorge. J'ai fermé les yeux, les mains sur les oreilles. J'ai heurté un muret, glissé sur des câbles. La moitié du plafond avait été arrachée par l'explosion. Le ciment en feu frappait tout autour avec un bruit de claque. Derrière une carcasse de voiture, un trou, une crevasse de guerre, un bitume ouvert en pétales jusqu'à son cœur de sable. Je me suis jeté dans les éclats comme on trébuche, corps chiffon, le ventre en décombre. Je tremblais. Jamais je n'avais tremblé comme ça. Ma jambe droite voulait s'enfuir, me quitter, une sauterelle apeurée dans les herbes d'été. Je l'ai plaquée à deux mains sur le sol. Elle saignait, ma jambe folle. Je n'avais rien senti. Je croyais que la blessure et le blessé ne faisaient qu'un. Qu'au moment de l'impact, la douleur hurlait son message. Mais c'est le sang qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Ni le choc, ni le mal, seulement mon jus poisseux. Mon pantalon était déchiré, il fumait. Ma jambe élançait comme une rage de dents. Ma chemise était collée de sueur. J'avais pris mon sac, mais laissé ma veste dans la voiture de Marwan, mes papiers, mon argent, tout ce qui me restait. Je ne pensais pas qu'un char d'assaut pouvait ouvrir le feu sur un taxi.
La vie, l'amour, la mort. C'est beau, la vie. Comme un nœud dans le bois. C'est bon, la vie. Bu au creux de ta main. Fragile aussi. Même celle du roi. C'est dur, la vie. Vous me comprenez bien, c'est beau l'amour, tu l'as écrit sur moi. C'est bon l'amour, quand tes mains le déploient. C'est lourd l'amour, accroché à nos reins. C'est court l'amour. Et ça ne comprend rien, c'est fou la mort, plus méchant que le vent, c'est sourd la mort, comme un mort sur un banc, c'est noir la mort, et ça passe en riant, c'est grand la mort. C'est plein de vie dedans.
Des nouvelles et des livres.
Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'avais décidé de diffuser un petit bout de Félix qu'on retrouve toujours beaucoup avec plaisir, même si ça craque un peu, même si c'est un vieil enregistrement, ça a son charme. Hein. Et j'avais décidé de diffuser ça parce que sous la rubrique des nouvelles et des livres, je voudrais revenir sur cet article que j'ai trouvé et qui annonce un festival qu'on aime beaucoup, qui est important, qui est à Trois-Rivières, qui est le festival de poésie, de mots à Trois-Rivières. Ça va avoir lieu prochainement du 3 au 12 octobre et ce festival de poésie fête ses 30 ans à Trois-Rivières. Et cette année, on fête surtout la mémoire de deux personnes qu'on adore, deux auteurs, deux poètes, en l'occurrence Félix Leclerc, qu'on vient d'entendre, mais aussi Gérald Godin. Alors, de Félix, eh bien, cette année, vous le savez peut-être, on en a parlé, c'est le centième anniversaire, enfin, ça aurait été le centième anniversaire de sa naissance, et c'est aussi le vingtième anniversaire du décès de Gérald Godin, qui, lui, était originaire de Trois-Rivières. Ça, j'ignorais ça. Alors, quand j'ai lu ceci sous la plume de Catherine Lalonde dans Le Devoir, je me suis ruée pour aller voir ce que nous avions au SQLA. Alors, de Gérald Godin, j'ai une bonne nouvelle parce qu'en ce moment, en traitement, au SQLA, il va y avoir L'Ange exterminé qui a été relu ici par quelqu'un. Je dis bien que c'est en traitement. Quand on dit que c'est en traitement, c'est, au moment où l'émission est diffusée, peut-être même qu'il est disponible, mais c'est une question peut-être pas d'heure, mais de jour, c'est certain, de Gérald Godin. Sinon, il y a ce recueil de poèmes, il ne demandait qu'à brûler, de Gérald Godin, qu'on peut trouver à la bibliothèque de l'INCA. Et alors, de Félix Leclerc, il y en a aussi une multitude, et pourquoi ne pas nous replonger dans l'œuvre écrite de Félix, Adagio, les contes, Allegro et Andante, toute cette poésie-là qu'on trouve au SQLA. Dans le cas d'Andante, il va y avoir un nouvel enregistrement qui est également en traitement et qui va sortir prochainement. Donc voyez-vous, là aussi, on fait des classiques, on ne ressort pas que des nouveautés, c'est intéressant. Sinon, de Félix aussi, Le calepin d'un flâneur, sans chanson. Le fou de Lille, qu'on peut trouver dans deux versions. Il y en a une au SQLA et l'autre à l'INCA. Et également dans deux versions, SQLA et INCA, pieds nus dans l'aube. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être sympa, que ça pourrait vous donner envie de retomber dans... j'aime pas l'expression de tomber, mais oui, pourquoi pas, dans l'univers de Félix Leclerc et Gérald Godin.
Quelques nouveautés en rafale.
Là, c'est l'heure où je vais donner quelques titres de nouveautés. Donc vraiment, ce sont des livres qui viennent juste d'arriver tout chaud. Ceux que je vais vous donner là, ils sont arrivés depuis le mois d'août au SQLA. Donc c'est vraiment très, très récent. Je voudrais d'abord parler de ce livre, Le dilemme du prisonnier. Vous connaissez peut-être Richard Powers. C'est à lui que l'on doit cette œuvre magistrale qui s'appelle Le temps où nous chantions. On a failli recevoir Jean Barbe ici à l'émission pour nous en parler. Ça ne s'est pas fait, mais ça se fera peut-être à un moment donné. Et le dilemme du prisonnier, l'histoire, on est dans la fin des années 80, en Illinois. On parle d'un père de famille qui est Eddie Hobson, qui est marié avec Eileen et leurs quatre enfants. Ils ont toujours formé un clan très soudé, mais soudain, Eddie est frappé par une étrange maladie. Et là, tout d'un coup, la mécanique familiale se dérègle et les secrets de ce père, pas comme les autres, font peu à peu surface. On se demande, par exemple, pourquoi ce professeur d'histoire charismatique a-t-il élevé ses enfants, aujourd'hui adultes, dans l'amour de la culture, du divertissement, des énigmes et des jeux d'esprit. D'ailleurs, il paraît qu'il y en a partout. Dans ce livre-là, les enfants et les parents parlent beaucoup avec des mots d'esprit. Est-ce que vous l'avez lu?
Non,
ni l'un ni l'autre. C'est de Richard Powers. C'est une toute petite citation ici, peut-être. Parce que, ah oui, il faut que je dise que petit à petit, l'histoire du père se dévoile et avec elle, c'est tout le 20e siècle qui défile, de l'exposition universelle de New York en 1939 aux essais nucléaires de Los Alamos, en passant par un projet grandiose de Walt Disney, destiné à entretenir l'optimisme des populations durant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, parce que ça existe aussi. Alors, il y a une citation, justement. « L'homme derrière la souris ne possède pas le quart de sa notoriété. Disney produit le couinement aigu connu à travers le monde, mais au téléphone, sa propre voix passe inaperçue. Il apparaît en photo dans des centaines de magazines, de journaux et de films d'actualité, mais toujours en compagnie de sa créature. Sans Mickey à ses côtés, d'innombrables admirateurs à qui il a rendu le présent supportable le croisent dans la rue sans se douter de rien. » Et puis le temps où nous chantions, là encore, hein, c'est une famille recomposée. Ça, c'est une histoire incroyable. C'est un livre magique. Il faut lire ce livre-là. C'est une brique monumentale, mais il ne faut pas se laisser décourager par la taille du livre. C'est plus de 1000 pages sur papier. Alors, ça représente 45 heures de lecture audio. Et ça, c'est la rencontre entre un physicien juif allemand et une femme noire, une jeune femme noire. Et ils se marient, ils élèvent trois enfants. Et il les élève dans le culte exclusif de la musique. Si vous aimez la musique, entre autres, c'est absolument phénoménal. Alors c'est une éducation qui va avoir des conséquences diverses, hein, sur les trois enfants. Il y en a un qui va devenir ténor de renommée mondiale. Il y en a une autre plutôt, qui va rejeter les valeurs de la famille complètement, elle, pour adhérer au mouvement des Black Panthers. Et puis le frère Joseph qui va tenter de garder le cap entre l'aveuglement des uns et le débordement des autres. Il y a aussi le fait qu'évidemment, ces enfants-là sont métis et il y en a qui sont plus noirs que d'autres. La jeune fille, par exemple, est très noire. Les autres sont plutôt très blancs. Donc, ça crée des drôles d'ondes et d'atmosphères dans cette famille-là. Par exemple, tenez une citation. Elle était très noire. D'un noir tellement noir qu'il n'a rien à voir avec ses mulets de fils. D'un noir imposé, d'un noir comme un refuge, noir par la mémoire et noir par l'invention. Chaque jour sur la défensive, à esquiver avec le sourire, le fruit de 20 générations de violence intégrée, à ployer sous les coups, même quand on croyait ne pas ployer. Pas une journée ne se passait sans qu'elle ait à ravaler sa salive, sans qu'elle soit obligée de se remémorer ce joyau intérieur qui la protégeait. Et pourtant, elle était claire de peau, de chevelure, de traits d'aspect extérieur, comme sa fille métisse qui se déteste de n'être pas plus simple. Noire, Ruth, elle était noire. Ah là là. Bon, allez, un autre domaine complètement pas facile, je vous le dis tout de suite. Ça s'appelle l'ablation. Et on parle là de l'ablation de la prostate. Non, non, je ne plaisante pas. C'est Tahar Ben Jelloun qui a écrit ça. Il a été témoin de cette horreur qui est arrivée et qui arrive à beaucoup d'hommes dans la vie. Et c'est arrivé à un de ses amis. Et il l'a suivi pendant un an et demi, je pense. Mais vraiment accompagné dans toutes ses pérégrinations hospitalières. Il dit, je suis devenu, et là c'est Tahar Ben Jelloun qui parle, il dit, je suis devenu l'ami avec le professeur d'urologie qu'il suivait. L'idée d'un livre s'est imposée peu à peu, un livre utile, qui rendrait service aux hommes qui subissent cette opération, mais aussi à leur entourage, leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, qui ne savent pas comment réagir. Mais la situation était délicate, fallait-il, comme le demandait mon ami, tout raconter, tout décrire, tout révéler. Après réflexion, j'ai choisi de tout dire. Donc je pense que c'est un livre important. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans mes rafales. Ça s'appelle « L'ablation » de Tahar Ben Jelloun. Et puis, c'est la suite logique. C'est un livre qui s'appelle « Apprivoiser la douleur et la souffrance autrement et plus qu'un livre ». C'est un véritable coffre à outils que nous proposent Michel Dufour et Jean Lamarche. Ces deux auteurs sont originaires de Lac à la Croix et de Jonquière et sont respectivement médecins et orthopédagogues. Et ils ont voulu simplifier la compréhension du phénomène de la douleur et nous amener à des moyens pour s'en... Peut-être pas pour s'en débarrasser, mais pour vivre avec. Alors, je vous rappelle le titre, « Apprivoiser la douleur et la souffrance autrement » par Michel Dufour et Jean Lamarche. C'est déjà la fin de l'émission. Chantal Lamarre, merci infiniment d'être venue. À une prochaine fois, je l'espère. Luc Mercure, merci aussi beaucoup. À votre prochain livre, c'est sûr, je vous accueille de nouveau et même avant. Jean-Sébastien La Liberté de l'autre côté, dans l'aquarium, merci beaucoup pour l'aide et pour la musique et pour tout ça. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et puis restez à l'écoute de Canal M. Merci infiniment, bonne lecture.